Mesdames et messieurs, laissez infuser votre thé, retirez vos babouches, tamisez vos lampes et prêtez l'oreille au docteur Jean-Pierre Richard qui vous la rendra bien sûr à la fin de la conférence. Bonne soirée.
Voilà, bonjour, c'est moi, donc docteur Jean-Pierre Richard. Donc, je suis médecin homéopathe acupuncteur. Je suis installé là au centre-ville à Auxerre depuis 30 ans. Les années passent. Donc là, ce soir, le thème, donc c'est le titre, c'est « Êtes-vous immunisé contre le coronavirus ?» Voilà, donc dans un premier temps, je vais vous faire un rappel de une description du système immunitaire du corps. Hein, parce que je me rends compte que les gens, ils connaissent que la moitié du système immunitaire, en fait. Donc l'immunité du corps humain peut être comparé à un instrument de musique. Pour moi, l'immunité, c'est un magnifique Stradivarius qui a mis des millions d'années à se fignoler au gré des évolutions successives qu'a connu l'humanité. Le Stradivarius du corps humain donc, nous a permis, nous en tant qu'espèce humaine, de traverser les diverses épidémies tragiques qu'a connues l'humain, comme la variole, la peste noire, le choléra, pour ne citer que les plus connus et les plus spectaculaires. Donc le système immunitaire a été efficace, sinon on ne serait pas là. Donc non seulement il était efficace, mais là on est en tant qu'espèce, on est bien vivant et on n'a jamais été aussi nombreux sur Terre, hein, 8 milliards. Donc merci notre système immunitaire. Tu as bien fonctionné. Alors donc, comment fonctionne ce Stradivarius immunitaire ? Donc habituellement, le grand public ne connaît du fonctionnement du système immunitaire qu'une moitié. C'est l'histoire des anticorps, qui est devenu un lieu commun, tout le monde connaît l'histoire des anticorps. Donc un virus, on va s'en rester au virus, vous savez, il y a aussi des bactéries, les champignons, voire les parasites qui peuvent se faire attaquer par le système immunitaire. Donc on va dire un virus pénètre dans votre corps, et celui-ci donc va détecter l'intrus. Il y a des globules blancs qui vont être informés de sa structure et qui vont fabriquer des anticorps, qui vont grandement faciliter sa destruction par d'autres globules blancs nettoyeurs du corps, ce qu'on appelle les macrophages. Donc ça, c'est ce que tout le monde connaît, c'est l'immunité, ce qu'on appelle humorale, humeur, comme donc anticorps, c'est parti de ces liquides, quoi. C'est dissous, c'est des anticorps, c'est des molécules qui sont dissoutes dans le sang. Donc c'est par ce biais de l'immunité humorale que est censé fonctionner les vaccins. Donc ce système-là, le système des anticorps en général, quand vous faites attaquer par un virus, il n'agit pas tout de suite. Hein. Si le virus est inconnu, donc le système immunitaire, il met au moins une semaine, le système immunitaire avec les anticorps, hein. Il met au moins une semaine à réagir celui-là. Hein. Il faut compter une bonne huitaine de jours pour que les anticorps ils soient efficaces. En cas de vaccin inconnu, hein, je parle. Hein. Donc, et l'autre partie que beaucoup de gens ne connaissent pas trop, c'est l'immunité cellulaire. Donc ça, c'est l'immunité qui agit dès le début de l'infection, dès qu'il y a un virus qui arrive, elle se met tout de suite en route. Alors, c'est une immunité qui n'est pas spécifique, c'est-à-dire que l'immunité avec les anticorps, c'est ciblé sur un virus très précis. Puisque l'immunité cellulaire, elle attaque tout le monde. C'est, si vous voulez, l'image, c'est ils vont au corps à corps, quoi. C'est les soldats qui vont avec la baïonnette, le flingue et tout, et qui vont au contact des ennemis. Hein, c'est pas un jeu vidéo, quoi. C'est pas les clones. Hein. Oui. Donc l'immunité cellulaire agit dès le début de l'infection. Il entraîne une inflammation. Donc il y a plein de cellules qui arrivent, c'est pour ça que ça devient rouge, et on a chaud, donc il y a de la fièvre. Au niveau microscopique, donc il y a une mobilisation de certains globules blancs qui vont au contact du virus et qui le bouffent. Donc en termes scientifiques, on ne dit pas bouffer, on dit phagocyter. Donc cette immunité cellulaire agit dès le début, en général, elle est efficace en 5 jours. En 5 jours, elle a fait son boulot. Donc si jamais vous êtes en forme avant de choper le virus, on a bien remarqué, si vous êtes malade de temps en temps, si votre première partie, en 5 jours en général, on est guéri déjà au 5e jour, on sent qu'il y a un cap qui se passe, c'est parce que votre première phase de votre système immunitaire a bien fonctionné. Voilà. Donc, l'immunité à long terme, ça utilise les anticorps. Donc, ce qui se passe, les 5 premiers jours, vous avez vos cellules, première phase de la réponse immunitaire, et après, c'est bien foutu, quoi. Après, c'est les anticorps qui prennent le relais, donc, et si tout se passe bien, donc en plus, après, il y a une mémoire qui se fait au niveau des anticorps, ce qui fait que si vous êtes de nouveau en contact avec un virus, donc on passe directement à la deuxième phase, et là, au lieu de mettre 8 jours à se mettre en route, elle agit dans les 48 heures, et donc là, elle attaque le virus, et donc là, on n'est même pas malade, on ne se rend même pas compte qu'on vient de choper un virus. Alors donc, il y a une autre notion, ça c'est pour le système immunitaire, il y a une histoire de terrain. Donc le terrain, on n'en parle pas beaucoup, parce qu'on est dans une société, enfin une conception médicale pasteurienne, c'est Pasteur qui a découvert les microbes, les virus, machin, ok, mais maintenant on ne parle pas du terrain, parce que le terrain c'est vachement important. Donc une maladie infectieuse ne touche pas n'importe qui, on le voit bien avec le Covid, hein. Il y a des terrains à risque. Pour la médecine officielle pasteurienne, on néglige le terrain et on se concentre sur l'agent pathogène. C'est un tort parce que le terrain fait toute la différence entre un petit rhume fébrile et être obligé d'aller en réanimation avec le même virus, hein. Donc le même virus, il n'est pas plus virulent que c'est le même, il agit pareil, mais c'est la personne qui n'agit pas pareil, hein. Pour un être humain, un chat, c'est plutôt sympathique. Pour un moineau, c'est plutôt problématique. Tout est là. Les deux terrains ne sont pas les mêmes. Face au Covid, il faut mieux une immunité de géant que celle d'un poids-plume. D'où l'intérêt de booster son organe immunitaire pour le long terme, ce qui est le rôle des médecines naturelles, hein, et d'une bonne hygiène de vie. Ce n'est pas lorsque la voiture est en panne d'essence qu'on se demande où est la station de service. Hein, c'est un peu tard. Il faut le faire avant. Il faut prévoir. Donc la médecine officielle, elle classe l'action de la vaccination comme une action préventive du terrain. Ben, je suis désolé, hein, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Hein. Parce que fait la vaccination? Que contiennent les vaccins? Bon, là, on va peut-être attaquer les vaccins. Hein. Attendez, je regarde là pour...
Merci.
Allô? Oui?
Oui, bah, effectivement, oui.
Oui, là, je vais parler des vaccins, donc maintenant. Hein. Donc, si vous avez des questions, on posera après, hein, sur le système immunitaire. Là, je vais passer au vaccin.
Voilà. Pour l'instant, j'ai rien, j'ai pas de questions qui sont arrivées
Ouais,
sur le
d'accord.
vaccin. Voilà.
Combien il y a de personnes à peu près?
Je sais pas, c'est Kamel qui le sait, ça, je sais pas.
D'accord. Alors, que contiennent les vaccins? Donc, les vaccins, ils contiennent l'agent pathogène. Donc, là, on va parler du virus. Donc, ils contiennent soit un virus vivant, mais neutralisé, c'est-à-dire... Il est moins violent pour pas déclencher la vraie maladie, quoi. Soit il contient le virus mort, soit des parties de ce virus, de cet agent, quoi. L'idée, c'est pas stupide au départ, hein, les vaccins. L'idée, c'est de présenter un virus qui est mort ou qui est pas dangereux, atténué, de manière à ce qu'il y ait la réponse immunitaire avec les anticorps qui se mettent en route. Et pour après, si jamais le vrai virus passe dans les environs, et ben le corps après il réagit tout de suite en fabriquant les anticorps à 48 heures et donc on n'est pas malade, c'est ça le principe. Sauf que ben, c'est pas si simple. Le problème, c'est que si on injecte un microbe mort à notre corps, et ben il s'en fout. Parce que notre corps, il n'est pas con. Et il fait ni chaud ni froid. Les globules blancs nettoient le virus mort et on n'en parle plus. Il se met pas à fabriquer des anticorps pour un truc qui n'est pas dangereux. Notre corps, il dit, bon, ben, ce virus ne présente pas de danger, on va pas s'énerver pour si peu. Résultat, la création d'anticorps ne se fait pas, donc vous n'êtes pas protégé contre ce microbe vivant. Ça, c'est un problème qu'ont eu ceux qui cherchaient à fabriquer des vaccins. Au départ, ils se sont rendus compte que, ben, c'était pas si simple, hein. Ils avaient beau injecter des virus morts dans le corps, ben, il n'y avait aucune réaction immunitaire qui se faisait. Donc les chercheurs, ils se sont un peu arrachés les cheveux, ils ont dit comment on peut faire. Donc ils ont cherché une astuce pour déclencher quand même une réaction du corps. Donc ils ont rajouté des trucs en plus du virus mort ou atténué. Ils ont ajouté des adjuvants, ça s'appelle des adjuvants, qui ont pour rôle d'énerver les globules blancs et puis de les faire quand même réagir un peu, quoi. Donc, après de multiples tâtonnements, ils ont dû tuer plein d'animaux de laboratoire pour ça. Ils ont trouvé trois produits un peu efficaces. Donc, il y a un produit, alors le thiomercal, enfin non, je ne vais pas vous donner le nom savant, ce n'est pas utile. Donc, il y a un produit à base de mercure, c'est le thiomercal. Il y a un produit à base d'aluminium, puis un produit à base de formol. Donc là, effectivement, si vous injectez le virus mort avec du formol, du mercure et puis de l'aluminium, ben, il y a une petite réaction immunitaire qui se déclenche. Le corps, il se met à fabriquer des anticorps. Bon, c'est pas aussi efficace que si vous aviez la vraie maladie. Voilà, mais il y a quand même une fabrication d'anticorps qui peut protéger. Mais bon, ben, on voit tout de suite le risque, c'est de se. Ben, vous commencez à vous polluer avec des métaux lourds, quoi. L'aluminium, du mercure puis du formol, c'est pas cool, quoi. Donc c'est le foie qui est pollué, parce que le foie, c'est lui qui nettoie les métaux lourds. Et comme par hasard, le foie il joue un rôle aussi important dans l'immunité. Donc voilà, déjà on voit l'ambiguïté du vaccin, c'est-à-dire d'un côté ça protège, ça déclenche une immunité, mais de l'autre côté ça encrasse le système immunitaire. Hein. Voilà. Donc en fait, sous prétexte de se protéger contre un virus précis, eh bien, on pollue et on affaiblit l'immunité globale du corps, notamment la première phase de l'immunité où on fait réagir les cellules qui attaquent, qui font bouffer les autres, quoi. C'est là, ben, s'ils sont pollués, ils sont un peu moins performants, quoi. Donc, bon, j'ai des images un peu marrantes, hein. C'est comme si pour éviter qu'un chat rentre chez vous, on faisait entrer un tigre pour faire peur au chat, quoi. C'est un peu stupide. On passe ensuite le restant de notre existence caché dans les toilettes en priant pour que le tigre y retrouve le chemin de la sortie, quoi. C'est un peu ça, parce que les métaux lourds, ça s'en va pas comme ça. Hein. Donc vous avez les métaux lourds dans le corps, après, le corps, pour les éliminer, ben, il en bave. Hein. Donc si vous voulez avoir un tigre dans votre système immunitaire, il faut prendre des médecines naturelles. Hein. Moi, je fais pas de la pub pour ma médecine à moi, mais je veux dire, moi, l'image que j'ai par rapport au Stradivarius, si le Stradivarius, c'est le système immunitaire, hein, les médecines naturelles, elles accordent le Stradivarius. C'est-à-dire qu'il y a des petites clés en haut, donc on tourne les petites clés, on accorde, et hop, le Stradivarius est accordé. Et les vaccins, ça fait quoi? Alors, on connaît rien des Stradivarius, alors on plante un petit clou, là, sur le Stradivarius, on tire un peu une corde, puis là, effectivement, ça s'accorde un peu, ça dure pas longtemps. Alors après, on aura un gros clou, un autre clou là-bas, puis alors vous avez un Stradivarius avec des clous partout, et après, il est foutu, quoi. Pour moi, c'est ça, les vaccins. Donc, le moins possible. Allô?
Donc toi, t'es pas pour, tu dis qu'il faut pas les vaccins obligatoires, les 11 vaccins, tout ça, indépendamment du vaccin du Covid, tout ça, pour toi, c'est du pipeau, quoi.
Ouais, moi je suis contre les vaccins en général. Hein. Enfin, faut pas être extrémiste non plus. Hein. Moi, faut toujours en médecine, faut toujours peser le pour et le contre. Hein. Faut peser le risque de se vacciner et le risque de ne pas se vacciner. Moi, c'est sûr que si jamais, par exemple, il y a une épidémie de méningite, parce qu'il y a une méningite foudroyante, c'est quand même mortel et ça va vite. Et puis apparemment, il y a un vaccin qui est efficace, puis pas trop méchant, apparemment. Donc moi je sais, même moi qui suis spontanément contre les vaccins, si jamais il y a une épidémie de méningite, ben je me ferais peut-être vacciner en urgence quand même, parce que je suis pas sûr que mon système immunitaire il fera face à un méningocoque sans que j'ai des séquelles neurologiques. Donc il faut pas, faut toujours savoir la raison garder, c'est-à-dire faut voir faut être dans l'instant présent et juger ce qui se passe. Donc qu'est-ce qui est en présence? Bon bah ben, il y a un méningocoque, il y a déjà eu 2000 morts. Ça va vite, il n'y a pas de. Voilà. Donc là, il faut peut-être se faire vacciner. Mais si vous avez une petite rougeole bénigne qui vous donne 3 jours de fièvre, après pas que vous ressortez plus solide qu'avant, moi, je ne me ferais pas vacciner contre la rougeole. Enfin, on pourra en parler après de la rougeole. Voilà, il faut. Moi, je donne mon point de vue. Après, il faut raison garder. Il faut voir la situation.
Très bien. Écoute, y a quelqu'un qui souhaite intervenir, à qui on donnera la parole tout à l'heure sur ce
Voilà.
sujet-là.
Si vous voulez, moi, ce que je veux dire,
Voilà.
c'est que le système immunitaire, c'est quelque chose qui a mis des millions d'années à se fignoler. C'est très précis. C'est comme une horlogerie d'un réveil, quoi, de Besançon, là. Et je veux dire, donc, faut y aller mollo, quoi. on fait pas n'importe quoi, quoi. Parce que le problème du système immunitaire, si on pollue trop le système immunitaire, alors avec des vaccins ou autre chose, hein, il n'y a pas que les vaccins, il y a ce qu'on mange aussi, hein. C'est-à-dire, si vous polluez le système immunitaire, bah, au bout d'un moment, il devient allergique, donc ça fait des gens allergiques, des terres allergiques. Si on continue, ça fait des maladies auto-immunes. C'est quoi là, une maladie auto-immune? C'est le système immunitaire qui est fou. Il reconnaît plus ce qui fait partie de notre corps, de ce qui fait plus partie de notre corps. C'est-à-dire que le système immunitaire, il s'auto-attaque. Il attaque le corps, quoi. Notre propre corps. C'est la police qui se retourne contre la population. Ou l'armée qui se retourne contre la population du pays au lieu d'attaquer l'ennemi. Voilà. Donc, bon, bah, je peux parler un peu de mon parcours de santé. Moi, pourquoi j'ai été amené à me positionner comme ça par rapport au vaccin? Parce que moi, donc quand j'avais 5 ans, j'ai eu une coqueluche grave où j'ai failli mourir. Et dans les séquelles, j'ai eu de l'asthme. Après, j'ai fait de l'asthme une grande partie de ma vie. Et puis pendant longtemps, pendant 40 ans, moi j'étais pro-vaccin au début. Hein. Je me suis dit, ben merde, c'est cool. Au moins, j'aurais été vacciné contre la coqueluche quand j'étais gamin. J'aurais pas eu la coqueluche. J'aurais pas été asthmatique. C'était ça le raisonnement. Donc moi, quand je me suis installé il y a 30 ans, je vaccinais comme tout le monde. Hein. Je piquais les gens, voilà. Sauf qu'un jour, ben ma mère, Dieu ait son âme, un jour, elle, en fouillant dans ses affaires, elle retrouve mon vieux carnet de vaccination quand j'étais tout petit. Et puis qu'est-ce que je vois dessus, en fait? Eh ben, j'avais eu le vaccin, deux doses de vaccin contre la coqueluche 6 mois ou 1 an avant d'avoir eu la coqueluche. Et donc après, je me dis, non, c'est quoi ça? Donc non seulement le vaccin, il m'avait pas protégé contre la coqueluche, mais je reste intimement persuadé qu'il m'a fait faire une maladie, une coqueluche plus grave que je n'aurais dû faire. Donc là, j'ai eu un changement de mon mental a fait qu'un tour. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et là, j'ai commencé à étudier les vaccins sous un autre angle. J'ai lu d'autres revues que les revues officielles, parce qu'à la fac, on vous bourre le crâne, tout est bon, hein, on vous parle pas des effets secondaires et tout ça. Hein. Donc là, c'est là, je me suis, puis j'ai eu des expériences aussi dans ma clientèle dans les années 90 quand ils ont lancé le vaccin pour l'hépatite B. C'était 92, 94 là. Moi, j'étais homéopathe déjà, donc à l'époque, moi, je recevais les pour compte. Hein. Il n'y avait pas de pénurie de médecins. Hein. Moi, quand je me suis installé en 90, à Auxerre, on était 55 médecins. Hein. Donc, moi, j'ai mis 2 ans à me faire une clientèle. Hein. Maintenant, les médecins, ils s'installent maintenant. En 2 mois, ils ont leur clientèle. Hein. Donc, moi, je l'ai vu les laisser pour compte. Donc, j'ai vu arriver, en l'espace de 2 ans, au moins 10, 12 patients qui avaient des problèmes neurologiques graves, que j'ai pas pu soigner malheureusement à la suite du vaccin contre l'hépatite B. Donc là je me suis dit, oula, bon voilà, donc après j'ai arrêté de vacciner les gens, quoi. Voilà. Donc bon, j'ai à peu près fait le tour
Ouais,
sur
d'accord.
pour la
La
fièvre,
fièvre.
oui. Je peux parler de la fièvre aussi, c'est important. Moi je trouve que la fièvre,
Ouais.
il faut pas faire baisser systématiquement, hein. C'est un moyen de lutter contre le microbe, c'est-à-dire quand la fièvre monte, d'une part, ça active vos propres cellules de défense, et puis ça affaiblit le virus. Le virus, il se développe moins quand il y a trop de chaleur. Et donc, il faut. Moi, je réserve. Donc, faut prendre. Moi, je donne de l'homéo, des plantes, les huiles essentielles, où je fais éventuellement une séance d'acupuncture. Et le paracétamol, moi, je le réserve pour la nuit, parce que quand on a beaucoup de fièvre, on ne peut pas dormir. Donc, moi, je dis à mes patients, prenez un peu de paracétamol le soir, vous dormez au moins 4 heures. Le paracétamol, ça dure 4 heures, et puis ça vous permet de récupérer, hein, mais n'en prenez pas toute la journée du paracétamol.
Mais
Voilà, donc, oui.
tu dis qu'il faut laisser agir, donc il faut laisser agir le corps qui se batte contre.
Voilà. Alors, faut boire beaucoup, faut boire des tisanes, et puis faut non pas, faut surveiller sa température. Si vous atteignez 41, faut faire baisser, hein, faut pas non plus attendre. Tout dépend. Faut être dans l'instant présent, quoi, voir comment la personne réagit. Si la personne, ça dépend du terrain. Si vous avez affaire à une petite dame qui a 90 ans et puis qui a une insuffisance cardiaque et tout, faut peut-être pas qu'elle monte trop en température. Hein. Si c'est un gaillard de 30 ans qui est en forme, qui fait du sport, lui, il peut monter jusqu'à 40, quoi. Donc tout est là. Hein. Il n'y a pas de règle générale. Il faut du bon sens. Hein.
D'accord. Tu
Voilà.
voulais
Donc,
pas.
par rapport au Covid. Moi, le vaccin par rapport au Covid, hein, moi je suis contre le vaccin du Covid. Parce que pourquoi? Parce que bah, déjà, il n'est pas prêt. Normalement, il faut au moins 1 an ou 2 pour faire un vaccin. Minimum 1 an. Donc, s'ils nous balancent un vaccin là en septembre, je veux dire, il y a un problème. Hein. soit le vaccin il est bâclé, on va servir de cobaye, soit ils avaient déjà préparé un vaccin avant. Donc là, et puis le problème, c'est que le virus, il va muter. Donc le vaccin, même s'il est efficace, il ne sera pas efficace longtemps, quoi. Si le virus mute, on ne sera pas protégé. Puis en vous faisant vacciner, vous affaiblissez le restant de votre système immunitaire. Donc il faut mieux garder un système immunitaire en forme, vierge, qui est prêt à faire face à l'inconnu, tous les nouveaux virus, parce qu'il peut y avoir n'importe quel virus qui peut arriver. Au moins lui, il fera face s'il est en forme. Notamment grâce à la première phase de la réponse immunitaire. La réponse cellulaire, non spécifique. Parce que si vous prenez un tas de vaccins, vous polluez, ben vous affaiblissez globalement votre système immunitaire. Donc pour moi, c'est pas génial, quoi. Voilà. Moi, j'ai fini sur les vaccins.
Vous voulez pas nous parler d'immunité de groupe, c'est peut-être pas à ce
Oui, tout à
moment-là
fait.
que.
Voilà, l'immunité de groupe. Alors voilà, ça c'est le gros dada en ce moment. Donc dans le cas du coronavirus, selon les sources, il faudrait que, en gros, 70% de la population soit immunisée pour que l'épidémie soit stoppée. Parce qu'après, l'idée de l'immunité de groupe, c'est que si vous avez un grand pourcentage, on va dire 70% des gens qui ont une vraie immunité, alors on entend quoi par immuniser? C'est précis. C'est-à-dire, il faut que ça soit. Il y a un gros taux d'anticorps pour que le virus il ne circule plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de porteurs sains. Parce que s'il y a des porteurs sains, eh ben, ils peuvent contaminer les autres. Donc, pour qu'il n'y ait plus de porteurs sains, il faut que le taux des anticorps soit élevé. Et je suis désolé, jusqu'à preuve du contraire, ceux qui réalisent cela, donc un gros taux d'anticorps, ben, il faut avoir eu la maladie. Donc, il faut que la personne ait été malade, enfin, ait chopé le virus en direct. Un vaccin, pour qu'il y ait un taux d'anticorps qui soit vraiment élevé de manière à ce qu'il n'y ait plus de porteurs sains, eh ben, ça peut pas se faire, ça marche qu'une fois sur deux. C'est-à-dire, tout le monde ne répond pas au virus, pardon, au vaccin. Il y a 5% des gens qui répondront jamais au vaccin. C'est-à-dire, vous êtes pour le vacciner 15 fois, le système immunitaire, il réagit pas. 5%. Puis vous avez à peu près 30% des gens qui feront une réponse. Il y aura des anticorps, mais ça sera moyen, quoi. Ça les protégera peut-être eux un peu, mais ça fera pas une immunité de groupe. Ils pourront être porteurs sains. Puis à 50% des gens, eux, ça peut être, il peut être une immunité de groupe. Donc si vous calculez tout, même si tout le monde se fait vacciner, c'est-à-dire tous les gens ont la trouille, attention, 100% des gens se font vacciner. Donc il y aura déjà que 95, il y aura 5% qui réagiront pas au vaccin, donc ça fait déjà 95. Vous enlevez les 30% de gens qui feront une immunité, mais pas assez élevée pour, ils seront porteurs sains. Donc 95 moins 30, je sais pas, on arrive à 65. Donc vous serez en dessous du seuil de l'immunité de groupe. Donc l'immunité de groupe, ce ne sera pas efficace, même si tout le monde se fait vacciner. Voilà. Et donc je veux dire, l'immunité de groupe, c'est du pipeau. Pour le Covid, c'est du pipeau. Moi, j'y crois pas et on ne pourra pas y arriver, même si tout le monde se fait vacciner.
D'accord.
Voilà. Si vous avez des questions, voilà, c'est tout.
Alors, il n'y a pas de question directement sur ce sujet-là, mais une question par rapport à ce que tu as dit un petit peu au début sur pourquoi les médecins donc s'attaquent aux symptômes et pas au terrain. Enfin, comment ça se fait que la pratique de la médecine occidentale est telle?
Ben, parce que la médecine, nous, on est dans une médecine pasteurienne, c'est-à-dire on attaque un ennemi. On a bien vu, là, Macron, il est en guerre. Je veux dire, on attaque un ennemi, mais en médecine, c'est pareil. Alors, on attaque un ennemi. Alors, il faut trouver un ennemi. Alors, l'ennemi, c'est le virus, c'est la bactérie, c'est le cancer, c'est tout ce qu'on veut. Donc, il y a un ennemi. Donc, mais c'est le côté masculin, guerrier. C'est le mauvais côté du masculin. Bon, le guerrier, c'est bon, quoi. Peut-être qu'on se calme un peu. Enfin, ça fait que la moitié du boulot, quoi. Oui, c'est sûr qu'il faut déglinguer le virus, mais on oublie la moitié du boulot. L'autre moitié, c'est stimuler le terrain. Donc, il faut. Et les médecines de terrain, bah, je suis désolé, ce n'est pas les médecines officielles. Les médecines officielles, elles polluent. Elles balancent des médocs, de la chimie et tout. Les médecines de terrain, c'est les médecines naturelles. C'est l'homéo, l'acupuncture, les médecines énergétiques. Enfin, il y en a plein maintenant, c'est une explosion en ce moment des nouvelles médecines. Parce qu'on en a besoin, ça traite le terrain. On a oublié ça. Et donc le terrain, c'est tout ce qui ça fait la différence Voilà, par rapport à un même virus, le même virus, il tue quelqu'un, et puis quelqu'un d'autre, il le laisse, il ne se rend même pas compte l'autre. Je veux dire, il y a un problème. Donc, c'est le virus, c'est pas le virus qui est grave, en fait. C'est comment le terrain réagit. Voilà.
D'accord.
Voilà, j'ai répondu à une question, là.
Bah écoute, oui, je pense à cette question-là. Alors, attends, il faut que je retrouve, parce que je jongle entre les mails et puis
Ouais,
le
bah oui,
FAP.
c'est compliqué, hein.
Voilà. Donc j'ai une question qui est arrivée par le FAP, c'est la qu'à voir avec la chloroquine. Pourquoi les médecins ne peuvent plus prescrire la chloroquine?
Bah ça, à mon avis, c'est pas médical, c'est politique. C'est un problème politique. Parce que la chloroquine, elle était autorisée. Alors là, c'est louche. Moi, je sais pas. Il y a une magouille là-dessous. Je sais pas. Hein. C'est pas mon. Moi, je suis médecin. Je suis pas, comment on dit, de la police. Hein. Je suis pas de la police, moi. Une police politique, hein. Je suis pas de la police politique, moi. Mais à mon avis, il y a un truc louche là. Parce que je veux dire, c'est pas normal. Le hydroxychloroquine, ça fait des dizaines d'années qu'on l'utilise. Moi, j'en ai pris. J'étais au Sénégal. J'ai fait mon service en 84 au Sénégal pendant 1 an et demi. Et moi, j'ai bouffé de l'hydroxychloroquine. Non, c'était du chloroquine, la lamivaquine. C'est presque pareil. J'en ai bouffé pendant 1 an et demi. Bon, ça m'a pas arrangé, mais j'ai pas eu trop d'effets secondaires. Donc on connaît cette molécule. En plus, ça coûte pas cher. Alors pourquoi tout d'un coup, juste avant l'épidémie qui est arrivée en France, là, bah, la ministre de la Santé, Buzyn, elle dit, bah, interdit maintenant, on n'a plus le droit de retirer de la chloroquine. Alors les médecins généralistes, ils ne pouvaient plus en avoir. Je dis, non, mais c'est le délire, hein. Parce que la chloroquine, Raoult, hein, moi j'aime beaucoup Raoult, Raoult, lui, il n'a rien inventé, hein. Comment il a découvert que la chloroquine et l'azithromycine étaient efficaces? Il a demandé à ses collègues chinois, qui eux avaient eu l'infection avant. Les Chinois lui ont dit, bah, écoute, voilà, ça a l'air efficace. La chloroquine, nous, on a fait des tests, il y a moins de morts avec chloroquine et azithromycine que s'ils prennent rien. Mais ça, en Occident, il ne faut pas que cette information-là, elle passe. Voilà. Raoult, il est tout seul. Donc, hein, je crois plus à ce que dit Raoult que ce que disent les autres. Hein. Donc, voilà.
Oui.
Donc, en fait, il y a des traitements, il y a des traitements donc chimiques, hein, l'azithromycine, c'est un antibiotique, chloroquine, c'est un antibiotique, et puis il y a des traitements aussi, il y a des huiles essentielles, ça marche, il y a des protocoles en acupuncture pour stimuler l'immunité et agir sur le poumon, il y a de la phytothérapie, il y a des huiles essentielles. Moi, je veux dire, quelqu'un qui est en forme avant et qui a le coronavirus, moi, ça ne me fait pas peur en tant que médecin, moi, je peux le soigner. Hein. Mais moi j'en ai vu qu'un peut-être, hein. Je suis pas sûr encore. Hein. Parce que c'est pareil, les tests, moi je suis contre les tests. Parce que je déteste les tests. C'est parce que bah, les tests, déjà, il paraît qu'ils sont pas fiables. Il y a beaucoup de faux positifs. Alors, vous croyez que vous l'avez eu, puis en fait vous l'avez pas eu. Et puis quand on prescrit un test, il faut toujours savoir qu'est-ce qu'on en attend. Moi, les gens, ils veulent passer un scanner, ils veulent passer toute la journée. Moi, ils disent, ah, docteur, je veux faire la radio. Bon, ok, mais vous en attendez quoi? Ça va déboucher sur quoi, votre radio? Est-ce qu'il y a un acte thérapeutique derrière? Ah, bah, je sais pas. Bah, moi, je vous dis que non, il n'y a pas d'acte thérapeutique. Donc, ça sert à rien de savoir pour savoir. Parce que les gens, ils veulent savoir pour savoir. Ça, c'est le mental. Le mental, il veut savoir pour savoir, même si ça sert à rien. Ah oui, c'est, on veut savoir. Ok, bon. Concrètement, alors. Vous voulez savoir quoi? Si vous avez été en contact, si votre corps a fabriqué des anticorps contre le Covid. Ok. Donc là, il faut faire un test sérologique. Bon, ça peut être fiable. Donc on va vous dire, ok, on vous a trouvé un taux d'anticorps. Non, vous n'en avez pas. Bon, et après, ça change quoi pour vous? Alors, ça peut discuter, parce que si vous avez un taux d'anticorps assez élevé, bah bon, bah, vous êtes protégé, donc les gens. Ils enlèvent le masque, ils vont embrasser tout le monde, et puis ils n'ont plus besoin de faire attention au Covid, ça c'est le côté positif. Mais si vous n'avez pas, si votre anticorps, si vous n'avez pas d'anticorps, qu'est-ce que ça change? Bah alors, bah les gens, ils ont la trouille, ils disent merde, ça y est, j'ai pas eu, donc je peux le choper, donc bah, je reste confiné chez moi, je mets un masque, je vis plus, je respire plus, quoi. Donc c'est un choix. Moi je sais que je ne me ferai pas tester. Moi, ça m'apportera rien, je m'en fous, moi. J'ai pas besoin de savoir si j'ai des anticorps dans mon sang ou si j'en ai pas, ça change rien dans ma vie. J'ai pas envie de savoir pour savoir. J'ai pas envie de faire une étude statistique sur les anticorps dans la population humaine. de Français, savoir s'il y a 30% de gens qui ont des anticorps ou pas.
D'accord.
Toute façon, on sait que s'il y a 70% des gens qui ont été infectés, il y aura une immunité de groupe. Voilà. Alors après, oui, on peut dire, bon, on va faire une étude statistique pour savoir s'il y a 70% des gens qui ont une sérologie positive. Voilà. Mais le problème, c'est qu'après, il y a un problème de liberté, parce que si vous faites un test, après, c'est noté. Donc, je veux dire, après, il y a le flicage. Dire, OK, vous êtes positif. Bon, alors, vous avez vu qui? Donc là, ils vont fliquer tous vos amis. Ah oui, donc vous avez vu machin, machin. Donc tous les amis vont être emmerdés. Il va falloir qu'ils refassent un test. Et puis après, ils vont. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous êtes positif? Il faut que vous restiez chez vous encore 15 jours. Donc tous vos amis, ils vont être obligés, qui seront positifs, ils vont être obligés de rester 15 jours chez eux en plus. Alors qu'ils sont déjà guéris, qu'ils n'ont peut-être pas eu de problème et puis qu'ils en auront plus par rapport au Covid. Donc ça marche pas, ça tient pas. C'est-à-dire, ça restreint nos libertés pour aucune efficacité au niveau de l'individu, quoi. Enfin, je sais pas si je me fais comprendre.
Oui, je crois. Alors, j'ai quelqu'un qui réagit là, qui voulait réagir par téléphone, mais j'arrive pas à recevoir son numéro de téléphone, mais qui réagit par mail. Hein. Je reçois. Alors, je vais te dire les réactions que. C'est quelqu'un qu'on connaît, hein, qui est infirmière de formation, et
Voilà.
qui dit que la Nivacine entraîne des problèmes cardiaques graves,
Ah oui, c'est
qu'elle a une expérience de terrain, donc oui. Donc elle est contre le test, un peu comme tu le disais. Elle est pour les vaccins et elle est pour une recherche des anticorps gratuite et systématique. Voilà, donc ça c'est sa première réaction. Je continue parce qu'elle m'en a, elle a envoyé un deuxième, elle a envoyé un deuxième message. Alors attends, faut que je le chope, il y a quelqu'un d'autre qui est intervenu là. Bon, mais écoute, vas-y, déjà ça, déjà ce qu'elle a dit, je cherche d'autres messages.
De quoi? Alors, c'était quoi la question? J'ai pas bien compris.
Alors, je redis alors. Donc, ah oui, voilà, elle dit, il faut protéger les personnes âgées avant tout, on peut discuter de la stratégie. Elle dit que la Nivacine crée
Oui, il peut y avoir des complications cardiaques, mais enfin moi je suis pas allopathe, hein, moi je suis homéopathe, hein, donc les médicaments chimiques, c'est pas ma spécialité, hein, donc. Je sais que de toute façon, la Nivacine, il y a des effets secondaires aussi, hein, probablement cardiaques. Donc là, moi, de toute façon, il faut étudier. Moi, je suis pas pour filer de la Nivacine à tout le monde, hein. Mais voilà, de toute façon, normalement, il faut mieux faire un électrocardiogramme avant de prescrire de la Nivacine, enfin de l'hydroxychloroquine. Et je sais qu'il faut faire un électrocardiogramme. Et si l'électrocardiogramme est normal, là, a priori, il n'y a pas trop de risques de complications cardiaques. Moi, j'avais cette notion-là. Hein. Mais moi, je suis pas un allopathe, hein. Moi, je suis un homéopathe.
Moi, j'y comprends rien parce que la nivaquine, la chloroquine, l'hydro, je sais pas quoi, c'est quoi je comprends pas
Alors,
tout ça.
la Nivacine et chloroquine, c'est synonyme, hein. Nivacine, c'est le nom commercial de la chloroquine. Chloroquine, c'est le nom chimique, hein. Et l'hydroxychloroquine, c'est donc le plaquénil. Et donc, si vous voulez, c'est de la chloroquine où ils ont rajouté un petit bout de molécule. Voilà, mais c'est de la même famille, hein. Et ça agit un peu, voilà, ça agit à peu près pareil, voilà. Bon, c'est sûr que dès qu'on prescrit un médicament chimique, un antibiotique ou n'importe quel médicament chimique, il y a des risques d'effets secondaires, hein. Après, le tout, c'est de voir les risques, mais la chloroquine et l'hydroxychloroquine, on connaît, ça fait des dizaines d'années qu'on utilise, donc on sait tel pourcentage qu'il y a d'avoir des tels effets secondaires. Parce que là, ils essayent de fabriquer des nouveaux médicaments antiviraux, là, qui termine en IR. Et là, on ne connaît pas, c'est des trucs nouveaux. Donc là, moi, je préfère prendre un médicament ancien dont on connaît les effets secondaires et puis qu'on fait un électro pour savoir si on peut le prendre, que prendre un truc nouveau, on ne connaît rien, puis servir de cobaye, hein.
Alors, d'accord. Donc, il y a deux choses là qui viennent. Il y a quelqu'un qui dit que Pablo Servigne, tu sais, qui a pas mal écrit sur le collapse, sur l'effondrement, hein,
Oui.
il dit que à la suite de ça, il faudrait qu'on questionne, hein, dans l'après, après la fin du pétrole, il faudrait aussi qu'on questionne la médecine. Que pouvons-nous espérer faire? À quoi devrons-nous renoncer? Et comment pouvons-nous nous préparer maintenant? Est-ce que
Alors,
c'est clair?
pour faire évoluer la médecine, c'est ça la question?
Ouais.
Bah oui, comment la médecine risque d'évoluer, c'est ça?
C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? À quoi est-ce qu'on doit renoncer? Et comment on doit se préparer pour participer à cette évolution de la médecine? Parce que c'est aussi les patients qui réclament du
Bah
médicament.
moi, je pense qu'on a renoncé à rien déjà. Hein. Je ne sais pas pourquoi on renoncera à quelque chose. Hein. Moi, je renonce pas à la médecine chimique. Hein. Elle a même des choses. Hein. Faut pas renoncer aux médicaments. Hein. Les médicaments sont très utiles dans des cas précis. Hein. Moi, je suis pas contre les médicaments. Hein. C'est un outil très très intéressant quand il faut aller vite, quand il y a une maladie grave et par exemple une grosse infection à bactéries, il faut prendre des antibiotiques. Il n'y a pas photo. Donc il faut garder notre médecine. Le problème de la médecine actuelle, c'est que la médecine chimique, elle prend toute la place. Elle ne veut pas la laisser aux autres médecines. Dans un avenir, ce qui va se passer d'ici, alors soit d'ici un an, ou soit d'ici une génération ou deux, on ne sait pas, ça dépend comment en face ils vont freiner des cas de fer ou pas. Dans une génération, peut-être, il y aura. Ils ont fait des études statistiques chez un généraliste lambda, hein, généraliste normal, allopathe, hein, sur 100 patients qui sont dans sa salle d'attente, il y en a 80%. Ça, c'est des statistiques qu'on apprend à la fac de médecine. Hein. J'ai appris ça il y a 30 ans et on l'apprend encore. Il y a 80% des gens qui sont dans la salle d'attente d'un médecin généraliste qui n'ont pas besoin de médicaments chimiques. Parce qu'ils ont ce qu'on appelle des maladies fonctionnelles. C'est-à-dire que c'est des maladies qui ne sont pas organiques, qui n'engagent pas la santé, le pronostic vital du patient. Et donc, ceux-là, ils peuvent se. Ceux-là, c'est des candidats pour faire. Déjà, tous ces 80%-là, ils devraient être soignés par des médecines naturelles. Et les 10, les 20 ou 15% qui restent, ceux-là, ils ont besoin soit d'aller voir le chirurgien, soit de faire des tas de bilans puis de prendre des médicaments chimiques. Voilà, c'est une maladie physique. Donc, la médecine actuelle, elle est bonne pour soigner, on va dire, 15 à 20%, je suis sympa, 20% des patients. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que ben, la médecine chimique, elle soigne quasiment 100% des patients. Alors, ça va pas. Ça va s'inverser dans quelques années. La médecine chimique soignera 20% des patients et les autres médecines naturelles, 80%. Donc, le gâteau, il va virer en faveur des médecines naturelles. C'est logique. C'est obligé. La médecine doit faire ça. Mais il faudra garder, faut renoncer à rien. La chirurgie, la médecine chimique, c'est des acquis de l'immunité, de l'humanité, pardon. Et voilà, il y a juste un rapport de quantité, c'est une histoire de quantité.
Alors,
Voilà.
il y a Agnès, l'infirmière dont je te parlais tout à l'heure, qui continue les échanges à travers le mail et elle dit que sa position par rapport au vaccin a littéralement changé depuis qu'elle a travaillé en Seine-Saint-Denis, où elle a découvert la tuberculose et la rougeole dans des milieux très précaires. Et dans
Ah
son
oui, d'accord.
boulot, elle a souffert du manque de BCG. Et elle dit,
Exactement.
bon, bah, la disparition de la polio, c'est pas mal quand même.
Voilà, moi je donne ma position, mais moi j'ai pas une clientèle dans le 92. Hein. Moi je suis au centre-ville à Auxerre, c'est différent. Donc moi il faut s'adapter aux situations. Les vaccins, si cette l'infirmière elle juge que c'est utile là où elle travaille, moi j'ai rien contre. Moi, je connais pas le 9-2, donc je connais pas. Si, voilà. Si, des
D'accord.
vaccins. Moi, c'est pareil, si c'est utile dans telle ou telle population, pourquoi pas? Qu'on le prouve aussi, hein. Mais, voilà. Mais faire le BCG ou. Moi, la rougeole, je suis pas vraiment d'accord parce que la rougeole, je veux dire, moi j'ai eu la rougeole quand j'étais jeune, il n'y avait pas le vaccin contre la rougeole. Bon, il y avait des complications type encéphalite, mais il n'y en avait pas tellement. Et puis, alors maintenant, le problème de la rougeole, c'est que, puisqu'on en parle, donc on vaccine les enfants pour la rougeole. Alors après, c'est les adultes qui font une rougeole. Et si vous faites une rougeole à 30 ans, c'est plus grave que si vous faites une rougeole à 10 ans. Donc, alors, moi j'ai lu des articles scientifiques là-dessus. Alors, normalement, les scientifiques, ils devraient dire, bon, ben, on s'est un peu planté, quoi. Mais non, ils persistent dans l'erreur et disent, non, eh ben, c'est qu'on fait pas assez de vaccins. Donc, ils font de plus en plus des rappels. Alors, je veux dire, après, on va faire des rappels de vaccins contre la rougeole tous les 5 ans, en polluant le corps à coups d'aluminium et tout ça. Je veux dire, pour se protéger d'une maladie qui est 50 ans, il y a 50 ans avant le vaccin, n'était pas si grave que ça. Donc, je veux dire, on a fait avec le vaccin pour la rougeole, je suis désolé, ça a fait d'une maladie, peu grave, hein. Je sais pas, il y a peut-être, je sais pas les chiffres, hein, mais bon, on va dire 30 enfants qui mouraient de la rougeole par an. avant le vaccin. Et là, donc, on a des cas graves. La rougeole, non seulement ça n'a pas éradiqué, donc apparemment l'immunité de groupe pour la rougeole, ça fonctionne pas avec le vaccin. Hein, parce que je veux dire, ben, on en fait de plus en plus, donc il faut se poser des questions. Il n'y a pas d'immunité de groupe avec le vaccin, sinon il n'y aura plus la rougeole. Ils veulent éradiquer la rougeole, ça ne marche pas avec le vaccin, désolé. Tandis qu'avant, qu'on avait la maladie, ben, à 20 ans, il y avait 95% des gens qui avaient eu la rougeole, ben, il y avait une immunité de groupe. Après, on ne faisait plus du tout la rougeole quand on était adulte. Donc, pour moi, par rapport à la rougeole, je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec l'infirmière, ça ne marche pas.
D'accord.
Voilà. Après,
Bon.
voilà.
Okay. Alors, on peut changer peut-être un petit peu de registre. C'est une question sur le remboursement des médicaments homéopathiques, enfin des traitements homéopathiques. Pourquoi on est en train de faire baisser les remboursements des médicaments homéopathiques?
Oui, bah là, bon, moi, c'est plus une question sur le Covid ni sur l'immunité. On peut parler de ça, hein. Mais moi, pour moi, c'est un problème politique, c'est pas un problème médical, ça, hein. Donc moi, je suis pas politique, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est politique, c'est un choix, c'est pas une histoire scientifique parce que l'homéopathie ça marche, hein. Moi ça fait 30 ans que je le fais, j'ai pu me rendre compte, j'ai pas besoin d'études statistiques pour savoir que ça marche, hein. Par contre, c'est assez difficile à utiliser l'homéopathie. Moi quand je me suis installé, j'ai mis un an à savoir maîtriser l'outil homéopathie, même j'ai failli, au bout d'un an, je me dis merde, mais ça marche pas l'homéopathie, je vais arrêter. Et en fait, là, j'ai commencé à avoir des résultats, mais parce que je maîtrisais pas l'outil, c'est pas évident l'homéopathie. Donc après, il peut y avoir des guérisons miraculeuses, puis c'est comme tout, hein, il n'y a aucune médecine qui marche à 100%. Hein. Voilà, faut le savoir. Hein. Même les chirurgiens, il y a des décès. Hein. Donc je veux dire, il n'y a aucune médecine à 100%. L'homéopathie, c'est un bon rapport qualité-prix. Donc ça coûtait rien, c'était remboursé. Là, si vous voulez, il y a une volonté politique de virer l'homéopathie du cadre médical. Donc, je veux dire, c'est-à-dire que ça va faire comme les médecins. De toute façon, là, il y a tout un pôle de médecine, non, de nouvelles médecines, mais qui sont plus gérées par des médecins, qui sont plus pratiquées par des médecins. C'est des non-médecins qui pratiquent l'acupuncture, c'est pratiqué par des non-médecins, et l'homéopathie, bientôt, ça va être pratiqué par des non-médecins, quoi. Donc, ce qui se passe, c'est que il y a un clivage qui se fait entre la médecine officielle chimique, la chirurgie, tout ça, et les nouvelles médecines. Et moi, je trouve ça dommage. En Chine, ils n'ont pas ça. Les Chinois, pas à ce niveau-là, ils sont moins bêtes. Dans les hôpitaux, ils intègrent, ils font une médecine intégrative, c'est-à-dire ils intègrent la chirurgie, la médecine chimique, l'acupuncture, les plantes, la phytothérapie chinoise, et ils ont vachement de résultats. Puis c'est beaucoup plus, pour le patient, là-bas, c'est beaucoup plus cool, quoi, je veux dire, parce que maintenant, les gens, ils sont obligés de se cacher quand ils viennent voir un homéopathe. Ah, je ne l'ai pas dit à mon docteur. Hein. Je veux dire, non, mais c'est n'importe quoi. Je veux dire. On est grave, hein, en France, on est grave. Hein.
Oui, c'est ça. Tu parles du pouvoir politique et du pouvoir médical. Et tu dis que le pouvoir politique a pris la main sur
Voilà.
le.
En France, c'est l'histoire du chaman et du sorcier et du chef de tribu. Hein. Dans les peuplades premières, il y a deux postes clés dans un village. Tu as le chef de village, enfin le chef de la tribu. Et puis tu as le sorcier, chaman, guérisseur, quoi, qui est l'autre pôle. Si vous voulez, dans la société française, ça fait la classe politique, c'est le chef de village. Et puis le sorcier, c'est le corps médical. On va dire ça grosso modo. Alors normalement, dans un village qui fonctionne sainement, chacun a sa position, ils évitent ils fonctionnent main dans la main, donc il y a le chaman qui a son domaine d'activité, qui est reconnu par le chef de village, qui lui laisse faire son boulot, et le chaman, il n'interfère pas avec le boulot du chef de village. Voilà. Ils ont ces deux mondes différents, ils sont à égalité, si vous voulez, chacun son boulot, ils bossent main dans la main, tout va bien, les gens, ils sont heureux. Et en France, il se passe quoi? Eh ben, c'est le chef de village qui a un super ego, qui a étouffé le chaman. Donc le chaman, il est soumis au chef de village. C'est-à-dire que le corps médical, il est obligé de fermer sa gueule, c'est le politique. Là, on arrive à quoi? C'est les politiques qui dirigent le corps médical. C'est des mecs qui sont pas compétents au niveau médical, ils n'ont jamais fait d'études médicales, ils connaissent rien. Et ils se permettent de dire au corps médical, bon là, on arrête l'hydroxychloroquine, on interdit, hein. Ça, on interdit, mais c'est quoi? Je veux dire, c'est pas les médecins qui ont interdit l'hydroxychloroquine, c'est le corps politique. Ben, je veux dire, on en est où là? Il y a un problème. Il y a un problème. Moi, je suis désolé. Et ça, si je vais jusqu'au bout de mon raisonnement, ça vient parce qu'il y a l'ordre des médecins qui chapeaute le médecin, et l'ordre du médecin, ben, il est plus ou moins piloté par des politiques, hein. Et puis il y a la sécurité sociale, donc la sécurité sociale, c'est ce qui nourrit aussi les médecins. Donc elle a un pouvoir aussi sur les médecins. Donc il y a deux instances qui ont un pouvoir sur le corps médical. Il y a d'un côté l'ordre des médecins et de l'autre côté la sécurité sociale. Voilà. Et donc le
Pourtant,
corps médical.
la sécu, c'est quelque chose qui est issu quand même du CNR, de la Libération. C'est un outil au service de.
Voilà, au départ, c'était un outil, oui, au départ, en 45, c'était un outil au service du peuple, mais au fur et à mesure des années qui se sont développées, ça a été l'outil, il a été utilisé par les laboratoires pharmaceutiques. Je veux dire, il y a des magouilles, il y a des politiques qui sont mises. Donc, la Sécu, elle n'est pas au service du peuple, elle est au service des laboratoires. Hein. Je suis désolé de dire ça, mais moi, c'est mon expérience de 30 ans de médecine. C'est pour ça que j'ai quitté la Sécu il y a 10 ans, parce qu'elle ne reconnaît pas du tout les médecines naturelles. L'homéopathie, ben, on va bien, elle ne connaît pas. L'acupuncture, on n'est pas reconnu financièrement. Je veux dire, ça va bien, quoi. Maintenant, pour faire médecine naturelle, il ne faut pas être médecin. Voilà, on arrive à ça. Voilà. Donc, on en est là. Sinon, je voulais faire un petit speech sur les émotions et l'immunité. Je ne sais pas si j'ai encore le temps. Faut se vite.
Si, justement, j'allais revenir à ça parce que oui, t'avais dit que tu parlerais de ça, alors bah, vas-y. Bon.
Voilà, donc après je m'arrêterai. Donc, parce que bon, on parle des vaccins, tout ça, mais il y a quand même le psychisme et les émotions, les sentiments, ça a un gros impact sur le système immunitaire, hein, notamment par rapport au premier au Covid, ben, la peur, hein. La peur, c'est prouvé que ça fait baisser le système immunitaire, hein. La peur, ça agit sur l'énergie des reins, sur les surrénales. Donc la peur, ça fait, dans un premier temps, ça fait sécréter l'adrénaline, hein, donc on a un danger, on se met à courir, donc l'adrénaline monte. Puis après, si la peur persiste, eh ben c'est la cortisone. Donc après, vous vous retrouvez avec un gros taux de cortisone, c'est comme si vous bouffiez de la cortisone en comprimé, quoi. Donc la cortisone fait quoi? C'est un anti-inflammatoire. Donc l'anti-inflammatoire, c'est pas bon dans les maladies virales. On l'a vu par la Covid, hein, l'ibuprofène, c'est contre-indiqué dans le Covid parce que c'est un anti-inflammatoire, donc ça, les gens ils peuvent pas faire leur réponse immunitaire, donc ils font des formes graves. Et puis j'en étais où. Donc oui, la peur, c'est un effet anti-inflammatoire, et puis ça abaisse le niveau d'énergie générale, quoi. Donc il faut lutter contre la peur. Enfin, il faut pas avoir peur. Donc hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Bon, alors après, on peut. Comment?
Faut pas avoir peur d'avoir peur.
Voilà, oui, il faut déjà pas avoir peur d'avoir peur. Hein. Oui, je sais, j'ai retrouvé mon papier. Attendez, je vais allumer la lumière parce que je vois plus rien, moi, ici. Donc là, c'est la peur qui tue, hein, en paralysant les glandes surrénales et en augmentant le taux de cortisone dans le sang, elle affaiblit le système immunitaire. Donc la peur a un effet anti-inflammatoire, c'est ce que je viens de dire, hein. Alors après, après on arrive à la notion de, faut faire un travail sur soi, un travail intérieur. Donc, pour dépasser ses peurs, on peut pas faire l'économie d'aller visiter son inconscient, puis de faire des thérapies. On arrive dans tout le vaste monde des thérapies. Moi, j'en ai fait pendant une vingtaine d'années pour guérir de l'asthme, et guérir de mes peurs aussi. Alors. Alors on débouche la peur parce que si on analyse les peurs, si on décortique toutes les peurs, on arrive à une peur fondamentale, instinctive, c'est la peur de la mort. Vous pouvez décortiquer. Si vous avez peur de manquer d'argent, bah, vous avez peur de manquer d'argent parce que vous avez peur de vous trouver SDF. Pourquoi vous avez peur de vous retrouver SDF? Parce que bah, si vous passez l'hiver dehors, s'il fait moins 2 ou moins 5, bah, vous allez mourir, quoi. Donc on revient à la peur de manquer d'argent, c'est peur de mourir en fait. Donc si vous avez plus peur de mourir, ben finalement, vous n'avez plus peur de rien, quoi. Donc l'idée, c'est d'arriver à ne plus. Alors, comment ne plus avoir peur de mourir? De ne plus avoir peur de mourir? Bon, ben là, on débouche sur la notion de spiritualité. Hein, si vous avez. Voilà. Bon, ben moi, c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai un peu dépassé ma peur de mourir, parce que je sens et je crois qu'il y a une âme qui persiste après la mort. Bon, après, on rentre dans un autre domaine, c'est le domaine spirituel. Ça, c'est autre chose, hein. Mais c'est pour vous dire jusqu'où ça peut aller, hein. Donc, l'immunité, ça nous emmène jusqu'à l'âme, hein, finalement. Sinon, je voulais vous citer, oui, par rapport de. Je voulais vous parler Norman Cousine, par rapport. quel comportement on peut avoir par rapport à une maladie? Norman Cousin, donc c'était un Américain des années 50, quand il avait une quarantaine d'années, il s'est chopé une spondylarthrite ankylosante, c'est une forme de rhumatisme génétique ou qui fait très souffrir et qui rend raide. Donc lui, il a commencé, son médecin voulait lui filer des grosses doses d'anti-inflammatoires, et puis il en a pas. Enfin, il a essayé, puis après il avait mal à l'estomac, sinon c'est pas une solution. Donc il s'est remis en question profondément. Il s'est confiné volontairement, donc il a acheté plein de cassettes vidéo de films marrants. Et il s'est confiné pendant plusieurs semaines chez lui à regarder toute la journée, enfin très souvent des films marrants, puis à se mettre à rigoler. Il a passé beaucoup de temps dans ces 6 semaines-là à se marrer. Il a pris aussi des grosses doses de vitamine C. Puis il a remis en question sa vie, quoi. Il a fait le point avec lui-même. Il s'est dit, bon, j'en suis où dans ma vie? Pourquoi j'ai mal comme ça? Et puis, ben, au bout d'un moment, il a guéri. Alors que c'est une maladie très chiante qui est très dure à guérir. Alors, spondylarthrite ankylosante, en général, les gens conseillent, ils en ont jusqu'à leur mort. Et donc après, il a écrit un bouquin, donc c'était dans les années 60 après, et donc chose qui est impensable en France, là-bas aux États-Unis, il a été repéré par une université de médecine, et après, il était pas médecin, mais il a fait des cours à des étudiants en médecine pour montrer comment il avait guéri. En France, on en est loin. Et donc il a écrit, après, ce gars-là était connu. Voilà, donc c'était juste pour terminer là-dessus.
D'accord.
Donc, je termine pour conclure. Comme êtes-vous immunisé contre le coronavirus? Donc, je vais faire ça un peu sous forme de boutade, hein. Donc, si vous êtes heureux, si vous êtes joyeux, vous rigolez souvent, si vous mangez correctement, si vous faites du sport, si vous avez des amis, si vous avez une compagne à qui vous êtes bien, si vous avez assez d'argent, ben oui, vous êtes immunisé contre le coronavirus, quoi. Si vous êtes seul, triste, isolé, pas heureux, vous n'êtes peut-être pas immunisé, quoi, bien que. Voilà, j'ai terminé.
Bien terminé. Ben, parce que là, j'ai une contribution d'Agnès dont on parlait tout à l'heure, là, qui revient un petit peu là-dessus, mais qui va un peu dans le même sens que toi, je trouve.
Oui.
Bon, elle dit qu'elle a bossé dans des bidonvilles avec tout ce qu'on imagine, qu'elle y a vu des
Ah
rougeoles
ouais?
et des tuberculoses, et donc elle dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc là, c'est un petit peu en contradiction avec ce que tu as dit. Mais
Oui,
sinon,
d'accord.
elle dit que la sensibilité aux maladies, le corona le prouve, est une bonne photographie des inégalités sociales, c'est ce que tu as dit aussi,
Ah bah,
et
je suis tout à
effectivement,
fait d'accord.
voilà, ça
Oui, de toute
pue.
façon, bah, c'est le terrain, là, on rejoint la notion de terrain. Je veux dire, si on est dans une couche sociale défavorisée, on ne mange pas bien, quand on est dans une famille stressée et tout, eh ben, c'est pas pareil si on est dans une famille heureuse, épanouie, qu'on a tout au niveau matériel, on ne fera pas les mêmes maladies, même le même virus. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça qu'il faut lutter contre les inégalités sociales. La santé, ça rejoint la sociologie, hein. C'est-à-dire, pour moi, la cause du coronavirus, c'est pas la cause de cette épidémie-là, c'est pas un virus, c'est l'hypercapitalisme néolibéral, hein. C'est ça la vraie cause de cette maladie. Hein. On est en train de crever du néolibéralisme. C'est pour ça que moi, j'ai fait une photo où je me suis montré. Moi, je suis immunisé contre le capitalisme maintenant. Maintenant, c'est-à-dire que chez moi, à partir de maintenant, mes patients, ben, je vais faire du troc. Je fais du troc avec eux. C'est-à-dire, ils ne me payent plus. Enfin, ils me payent une consultation sur deux, ils me payent en euros. Et l'autre consultation, on fait du troc. C'est-à-dire qu'ils me rendent des services. Moi, je les soigne. Et en échange, ils me rendent des services ou on fait un échange de biens. Moi, je vais mettre ça en place parce que moi, j'ai plus envie de passer par les banques. Moi, je suis en révolution, là, donc je commence à agir. Donc, je mets ça en place dans ma clientèle, mes patients. Ils sont au courant maintenant. Une consultation sur deux, il n'y a pas d'argent qui rentre. C'est échange non marchand. C'est une transaction qui se fait d'individu dans une relation de confiance. Et bon, moi, j'ai fait la liste de ce que j'avais besoin comme service. Et bon, bah, par exemple, j'ai une patiente qui, au lieu de payer, bah, elle va venir faire. Je ne suis pas expert en ménage, donc elle va venir faire le ménage à mon cabinet. Voilà.
D'accord. Bon, on va pas débattre de ça, mais tu prenais un peu la cagnole avant. Là,
Oui,
tu
bah,
avais bien.
je continue, je la prends toujours, hein.
D'accord. Bon, voilà, parce que c'est aussi une manière de s'éloigner des
Oui,
banques.
tout à fait.
On est
Là,
encore
je prends
dans la vidéo.
Voilà, je prends espèces, cagnole ou troc. C'est mes trois modes de paiement. Je prends plus les cartes bancaires ni les chèques. Parce que je veux quitter le système bancaire.
D'accord. Bon, alors sinon, pour te rejoindre là avec ce qu'Agnès, elle disait, elle dit qu'elle est OK avec toi sur deux choses fondamentalement, que la médecine allopathique est surutilisée, que la
Oui.
crise a montré qu'il y avait moins de sentiments d'urgence, que les services ont été vidés, et elle
Hmm.
fait un lien entre le psy et le physiologique.
Ben oui,
Et
ben
donc,
on est d'accord.
voilà, vous êtes d'accord là-dessus,
On
et
est
elle dit
d'accord.
aussi que le pouvoir des labos est fou,
Ah oui,
et
c'est
de
vrai.
plus en plus dans les hôpitaux, ils forment les soignants, et se substituer à une formation indépendante. Donc, je crois que vous
Voilà.
vous retrouvez là-dessus.
On est tout à fait d'accord, là, ça n'a pas de problème. Tout à fait. Voilà.
Bien. Écoute, moi, j'ai pas d'autres. Je regarde sur les mails et sur le pad. J'ai pas d'autres interventions. Je retourne sur le pad. Non, mais sur le pad, même les copains ils disent que ben voilà, c'est une belle conclusion. Bravo.
Voilà. Bon,
Eh
ben,
ben
merci.
merci. Ben, merci à toi, merci à toi. C'était un
Ok,
magnifique.
ben, merci à vous. Moi, c'était ma première conférence. Ça, c'est mon baptême.
Ah ben voilà, chouette.
C'est sympa. J'ai jamais fait de conférence de ma vie. Bon, c'est sympa parce qu'on est chez soi. C'est pas trop stressant, je trouve.
Voilà, c'est une première approche intéressante.
Ouais, c'est une première approche. Je pense que c'est moins stressant que de voir toute une,
Toute
plein de
une
gens.
salle.
Ouais, je sais pas. Enfin.
Bon, on
Bon,
verra
ben,
plus tard.
merci. Donc là, je refais le 94, hein, c'est ça, hein.
Voilà, chut, chut.
Ok. Bon, ben, au revoir tout le monde. Merci pour votre écoute.
À tout à l'heure, alors, à tout à l'heure, on va débriefer, effectivement. Et puis, sinon, je vous rappelle que la semaine prochaine, donc, même heure, 20h30, apparemment, ça a l'air de fonctionner, enfin, on verra. La semaine prochaine, c'est sur la piscine nucléaire de Belleville, hein, qui est autour, à côté de Lyon et de la Nièvre, là, Belleville dans le Cher. Donc, ce sera quelqu'un de sortir du nucléaire qui viendra nous parler des déchets nucléaires et de la place des citoyens dans les énergies, dans les choix énergétiques. Voilà, et ben merci d'être resté jusqu'au bout et puis et ben, bonne soirée et à jeudi prochain et puis peut-être dans d'autres endroits. À bientôt, au revoir.